Aide complémentaire, racheter. Dans les leçons sur la gestionnaire, nous avons vu qu'en connaissant la nature de Dieu, nous pouvons connaître notre propre nature. Dans ces leçons, nous avons souligné ce que cela signifie pour nous en tant qu'hommes et femmes individuels d'être créés à l'image du seul vrai Dieu. Nos attributs humains individuels sont modelés d'après des attributs divins de Dieu. Ici, dans l'aspect aide complémentaire, nous devons revenir à l'étude de la nature de Dieu pour mieux comprendre qui nous sommes. Cette fois, l'accent n'est pas mis sur notre nature humaine individuelle, mais sur nos relations entre hommes et femmes. Par conséquent, il nous faut commencer avec des remarques sur le fonctionnement des premières relations fondamentales dans l'univers, c'est-à-dire comment les personnes de la Trinité interagissent entre elles. La Trinité est un Dieu, mais elle se manifeste en trois personnes. Certains enseignent que Dieu est une personne avec trois masques différents. Si c'était le cas, Jésus se serait parlé à lui-même dans le jardin de Gethsémané. C'est pour cette raison et pour bien d'autres que les chrétiens bibliques ont toujours rejeté l'unitarisme en tant qu'hérésie. La Trinité se manifeste en trois personnes, mais elle est un seul Dieu. Son unité est parfaite, il n'y a ni fossé, ni abîme, ni fissure dans l'unité de ces trois personnes. Le Seigneur, notre Dieu, est un. C'est là un des grands mystères du Dieu trinitaire. Nous ne pourrons jamais le sonder complètement, nous pouvons néanmoins le proclamer et nous réjouir de sa véracité. La multiplicité des personnes au sein de la Trinité rend l'amour et les relations interpersonnelles à la base de tout ce qui existe. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il se sentait seul. Le Père et le Fils partageaient la gloire et l'amour avant que le monde n'existe. Seul le Dieu de la Bible est un et trois personnes. Par conséquent, autant l'unité et la diversité, la vraie union et la réelle communion, existent depuis l'éternité. La Trinité est une en essence. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous trois divins de manière égale. Le Fils est tout aussi souverain, aimant et juste que le Père. Le Saint-Esprit est tout aussi omniscient et omniprésent que le Fils, et ainsi de suite. Aucune personne de la Trinité n'a d'attribut plus divin qu'une autre. Au-delà de ces trois points, la Trinité a une même essence divine. Elle se manifeste en trois personnes, celles-ci vivent en parfaite unité. Nous pouvons aller plus loin, car les personnes de la Trinité nous ont révélé qu'elles fonctionnent selon une structure d'autorité. Le Père est l'autorité. Il a envoyé son Fils dans le monde, et le Fils a vécu dans l'obéissance au Père, même lorsque c'était difficile et douloureux. Le Saint-Esprit a ensuite été envoyé dans le monde par le Père, non pour se glorifier lui-même, mais pour glorifier le Fils. Il glorifie le Fils et complète le travail commencé par le Fils, également par obéissance au Père. Ils se soumettent les uns aux autres selon cet ordre, le Saint-Esprit au Fils et le Fils au Père. Non seulement travaillent-ils dans cette structure d'autorité, mais ils exercent des rôles différents dans leur travail. Par exemple, pour l'œuvre du salut, le Père appelle, justifie et nous discipline. Le Fils est mort pour nous et ressuscité pour que nous puissions revenir à la vie avec lui et il intercède pour nous. Le Saint-Esprit nous régénère, vit en nous et nous baptise. Il nous convainc de pécher. Nous pourrions ajouter beaucoup de choses, mais le plus important à retenir est que les membres de la Trinité exercent des tâches différentes et accomplissent différentes parties de leur plan global par un travail d'équipe et avec des rôles spécifiques. Considérons maintenant avec attention ce que nous pouvons apprendre sur la relation entre l'homme et la femme à partir de ce que nous venons de décrire des principes relationnels de la Trinité. Comme nous allons le voir, l'homme et la femme mariés partageront effectivement certains principes relationnels avec la Trinité. Mais cela ne revient pas à dire que le mariage est un modèle ou une réplique de Dieu. Nous devons faire très attention lorsque nous faisons des applications de la Trinité au mariage et prendre garde à ce que nous imposons à la Trinité à partir du mariage. Nous sommes à la source de la vérité et toute erreur aura des effets de grande portée, voire désastreux, sur notre compréhension de Dieu et de nous-mêmes. Dieu est un, en trois personnes. L'humanité est une, créée en deux personnes, homme et femme. Voici quelque chose de merveilleux. Dieu tout entier est constitué de trois personnes unies. Cependant, s'il n'y avait que Jésus seul devant nous, nous aurions la divinité complète. S'il n'y avait que le Saint-Esprit seul présent, nous serions entourés de la divinité complète. D'une certaine manière, c'est la même chose avec l'homme et la femme. Si nous avons uniquement un homme ou uniquement une femme devant nous, nous voyons un être humain complet. Mais d'un autre côté, nous ne saisissons pas parfaitement ce qu'est l'humanité dans son entier tant que nous ne les voyons pas tous les deux ensemble, avec leur unité en Adam et dans le mariage. Mais attention, l'unité humaine du mariage n'est cependant pas la même chose que l'unité de la Trinité. L'union trinitaire n'est jamais, jamais comparée au mariage dans la Bible. Néanmoins, ceux qui font ressortir le fait que deux personnes ont été créées pour être distinctes tout en étant une seule chair n'ont pas tort. C'est ce que disent les Écritures en Matthieu 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Les membres de la Trinité sont égaux dans leur divinité, l'homme et la femme sont égaux dans leur humanité. L'homme n'a pas davantage de conscience que la femme n'a pas davantage de personnalité humaine que l'homme. Ils possèdent tous deux, de manière égale, les attributs humains de la pensée, de la volonté, de la conscience et de la personnalité. En conséquence, l'homme et la femme reflètent la Trinité parce qu'ils sont tous deux des êtres humains, tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous les trois des êtres divins. Les personnes de la Trinité, aussi bien que celles unies par le mariage, vivent et travaillent dans une structure d'autorité. Nous avons déjà vu dans les leçons précédentes que l'homme a été créé pour être le chef de l'équipe humaine dès le commencement, avant la chute. La femme a été créée dès le début pour aider et compléter l'homme en étant sous sa direction. De la même manière, Dieu le Fils est venu en se soumettant à son Père, en faisant sa volonté et en le glorifiant. De même, le Saint-Esprit obéit au Père et glorifie le Fils. Il existe une grande diversité dans la race humaine. Nous sommes des milliards. Néanmoins, dans le schéma global, l'homme et la femme ont été créés pour se spécialiser dans le travail et pour se compléter grâce à des rôles différents. Les hommes ont été créés pour être ceux qui dirigent, pourvoient et protègent. Les femmes, en règle générale, sont celles qui aident, soignent et complètent. Tout comme les membres de la Trinité exercent un travail différent et ont des rôles différents, ainsi en est-il pour l'homme et la femme. Révisons les principes relationnels de la Trinité partagés avec le mariage. Égalité dans l'essence. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux dans leur divinité, l'homme et la femme sont égaux dans leur humanité. Personnes multiples. Comme Dieu existe en trois personnes, l'humanité existe sous deux sexes différents. Unis mais distinctes. Comme les personnes de la Trinité sont réelles et distinctes, bien que leur unité soit indissoluble, l'homme et la femme sont tous deux réels et distinctes, mais leur unité au sein du mariage est une union véritable qu'on ne doit pas séparer. Égalité avec une structure d'autorité. Les personnes de la Trinité sont égales en nature, mais travaillent dans une structure d'autorité. L'homme et la femme sont égaux en nature, mais au sein du mariage, l'homme est celui qui dirige et la femme celle qui aide. Égalité avec des rôles différents. Au sein de leur unité parfaite et de leur structure d'autorité, les personnes de la Trinité exercent des tâches différentes. L'homme et la femme se complètent mutuellement dans la vie et dans leur travail en exerçant des rôles spécifiques. Ces cinq principes sont fondamentaux pour comprendre toutes les formes de relations, particulièrement celles de l'homme et de la femme. Par exemple, un des principes du féminisme est de dire que soumission égale infériorité, plus spécifiquement que la subordination à l'autorité masculine signifie l'infériorité féminine. Cette idée n'est pas chrétienne. Jésus est soumis à son Père. Le Saint-Esprit donne gloire à Jésus. Cela ne fait pas de Jésus ou du Saint-Esprit des divinités inférieures. Vivre et travailler en subordination ne fait pas d'une personne quelqu'un d'inférieur. Certaines personnes pensent que le mot « rôle » est un gros mot. De leur point de vue, les rôles limitent, étouffent et nous empêchent de devenir qui nous sommes. Comment est-ce possible, puisque même les personnes de la Trinité exercent des rôles différents? Prenons un exemple tiré de la nature. L'arbre est une des grandes familles de la création. Il a des racines, une écorce, des branches, des feuilles et des fruits. C'est une famille qui est déclinée en milliards de variations magnifiques. Le concept général d'un arbre ne limite pas et n'étouffe pas les arbres. Il met en relief et détermine des lignes générales qui donnent à l'arbre sa définition et sa raison d'être. Au sein de ce concept, il existe des variations magnifiques et incroyables qui portent des fruits. C'est un peu la même chose avec le fait d'être un homme ou une femme. La masculinité et la féminité mettent en relief une catégorie de créatures avec certains rôles généraux, à l'intérieur de laquelle des variations quasiment illimitées peuvent librement s'épanouir, avec à la fois une identité et une raison d'être qui leur sont propres. Le plus grand danger en comparant le mariage à la Trinité est d'incorporer la féminité au Dieu trinitaire. Beaucoup de personnes sont à la recherche de modèles féminins ultimes. C'est une bonne chose sur laquelle nous reviendrons dans cette leçon. Cependant, certains disent que si la femme doit être l'égale de l'homme, alors la féminité doit faire partie du Dieu trinitaire. Dieu doit être masculin et féminin, ou bien neutre, ou encore seulement féminin, mais pas masculin. Si la féminité ne fait pas partie du Dieu trinitaire, la femme doit être une créature inférieure. Cela est faux. La Bible, d'un bout à l'autre, nous enseigne que Dieu est masculin. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus en fera même une règle grammaticale en Jean 16, verset 13, pour s'assurer que le Saint-Esprit est bien « il » et non un pronom neutre. Dieu est appelé « le Père » 250 fois dans le Nouveau Testament. Il n'est jamais appelé « mère ». Beaucoup de gens recherchent une féminité ultime. Cette quête est bonne, mais elle ne peut être résolue dans la Trinité. Le mariage n'est jamais utilisé comme une illustration ou une image du Dieu trinitaire. Je le répète, le mariage, l'amour sexuel, l'amour masculin-féminin, n'est jamais donné comme image de la relation Père-Fils et Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est partiellement pour cette raison que l'homosexualité est mauvaise. L'amour masculin-masculin, c'est l'amour au sein de la Trinité. Dans le ciel et sur la terre, ce type d'amour est enraciné et basé sur l'amour d'un père pour son fils. Ce n'est pas un amour érotique, et cela ne devrait jamais l'être. L'amour masculin-féminin est un amour différent qui illustre quelque chose de différent. C'est l'amour du Créateur masculin pour sa création féminine. Plus précisément, le mariage illustre l'alliance d'amour de Dieu pour Israël et de Christ pour l'Église. L'homme et la femme partagent bien des principes relationnels avec la Trinité. On peut apprendre beaucoup de choses en étudiant comment les relations fonctionnent au sein de la Trinité et comment nos propres relations fonctionnent. Mais dire que le mariage a quelque chose en commun avec la Trinité et dire que le mariage reflète la Trinité sont deux affirmations diamétralement différentes. Dire que le mariage reflète la Trinité nous invite à penser que le mariage illustre le Dieu trinitaire. Cela invite les gens à voir Jésus ou le Saint-Esprit comme féminin, ou bien à associer l'amour sexuel au Dieu trinitaire. Ces idées ne sont absolument pas bibliques. Le mariage est certainement une image, mais dans les deux testaments, c'est l'image de l'alliance d'amour de Dieu pour son peuple, et non de l'amour des membres de la Trinité entre eux. Jésus est l'exemple ultime de soumission. Il a volontairement accepté le rôle de la créature. Il a volontairement souffert sous l'autorité humaine et il sera ultimement exalté pour cela. Notre restauration, en tant qu'aide complémentaire, dépend de notre capacité à suivre son exemple. Christ peut-il être le Dieu qui comprend les femmes? En règle générale, les féministes insistent sur le fait qu'il ne peut ni nous comprendre, ni savoir ce que nous traversons. Comment pourrait-il être tenté en tout point comme nous le sommes s'il est un homme et nous des femmes? Par conséquent, il doit être féminin d'une façon ou d'une autre. Des artistes féministes ont même réalisé des tableaux et des sculptures de lui sous forme d'une femme sur la croix. C'est blasphématoire. Néanmoins, qu'avons-nous à dire à ce sujet? Est-il possible pour un sauveur qui est un homme de comprendre les femmes? Un homme peut-il être le sauveur des femmes? La Bible enseigne que Christ est le sauveur et qu'il est un exemple à la fois pour les hommes et les femmes. Il a été tenté en tout point comme les humains. Cela ne signifie pas qu'il a affronté chaque tentation spécifique. Cela signifie que, dans le principe, il a affronté chaque espèce de tentation à laquelle nous avons à faire face, que ce soit le découragement, l'orgueil, la convoitise, l'avarice, etc. Sans aucun doute, Christ a affronté ces tentations à une échelle beaucoup plus importante que n'importe laquelle d'entre nous. Examinons le plan de l'incarnation. Supposons que nous écoutions une conversation entre les membres de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont au ciel et le Père est en train d'annoncer le plan du salut. Il dit « Mon Fils, ton rôle dans ce plan est de descendre sur terre et de devenir un être humain, d'être conçu dans le sein d'une femme et de naître comme un bébé, de vivre comme un petit garçon, de grandir comme un enfant, de te soumettre à l'autorité humaine, que ce soit à la maison, dans le temple ou dans la nation, et de mourir. Tu devras souffrir beaucoup de privations, de tentations et de limitations. Ta divinité sera voilée la plupart du temps et tu devras apporter la vie à la race humaine par ton propre corps. Tu devras faire tout cela en demeurant dans un lieu modeste, dans des petites villes et en vivant une vie humble et pauvre. Toi, Saint-Esprit, tu suivras le Fils et tu feras ta demeure en ceux qui croient en lui. Tu vivras dans leur vie étroite et humble durant des centaines et des centaines d'années. Tu devras supporter leur mesquinerie et leurs péchés flagrants. Ton travail consistera à enseigner, à convaincre et à les réconforter dans leurs peurs nombreuses et ridicules. Souvent, ils t'attristeront et te confineront dans une petite partie de leur vie déjà étroite. Que nous serait-il arrivé si Christ s'était tourné vers son Père en disant « Mais tu plaisantes, je suis Dieu autant que toi, je ne vais pas descendre sur terre et accepter toutes ces limitations, me soumettre à l'autorité et donner ma vie en sacrifiant mon propre corps. Je pourrais tout aussi bien rester ici au ciel et avoir la direction de l'univers. Pourquoi devrais-je accepter ces limitations ?» Bien sûr, c'est exactement ce qu'il n'a pas dit. En Philippiens 2, versets 5 à 8, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Écoutons maintenant deux autres conversations hypothétiques. Cette fois-ci, Dieu s'adresse à l'homme et à la femme. Le Père dit à l'homme, « Mon fils, tu es humain, simplement et complètement humain. Je te façonne comme un homme et je veux que tu me représentes dans mes activités divines les plus fondamentales. Pourvois, protège, conduis, exerce des jugements, initie l'amour. Je veux que tu me représentes dans les rôles que j'exerce, en particulier ceux de fils, de père, de jeune marié et d'époux, et parfois de guerrier, de prêtre et même de roi. Me représenter dans ces domaines sera ta plus grande gloire en tant qu'homme. » Puis il se tourne vers la femme. « Toi maintenant, ma fille, tu es un être humain toi aussi, mais ne considère pas ton égalité avec l'homme comme une chose à laquelle t'accrocher. Parce que toi, tu n'es pas seulement une créature comme lui, mais je te façonne pour représenter la créature d'une façon particulière. Accomplis les activités de la créature envers moi, dans ta relation avec ton mari et les autres. Sois celle qui répond, qui aide, qui se soumet, qui porte du fruit, qui collabore, qui soigne, qui fait confiance et qui glorifie. soit fille, mariée, épouse, mère, conseillère et reine. Ne t'accroche pas à la gloire de ton humanité qui me représente directement, car tu es mon image. Sois prête à accepter ton rôle en tant que femme. Vis-le à ma gloire et cela deviendra ta gloire. Ces conversations ne se trouvent pas dans la Bible, mais je pense qu'elles représentent fidèlement une bonne partie de la volonté de Dieu pour l'homme et la femme. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant parce que c'est la colonne vertébrale non seulement de cette leçon, mais aussi du cours tout entier. Au cœur même de l'incarnation, il y a la volonté de Christ d'endosser le rôle de la créature. Au cœur de la vraie féminité, il y a la volonté de la femme d'endosser le rôle de la créature. Jésus a accepté le rôle de la créature et a voilé sa divinité en renonçant à l'exercice de ses prérogatives divines. Bien que nous existions dans une forme humaine égale à l'homme, il nous demande d'accepter notre féminité et de ne pas nous accrocher à cette égalité, mais plutôt d'accepter notre rôle d'aide et de subordonné. Tous les êtres humains, hommes et femmes, sont des créatures qui ont beaucoup de limitations. Mais Dieu a demandé aux femmes de représenter la créature d'une manière différente de celle des hommes, tout comme il a été demandé à Jésus, dans sa divinité, de devenir une créature d'une manière différente de celle du Père et du Saint-Esprit. Voilà pourquoi précisément Jésus comprend les femmes et est digne d'être notre Sauveur. Dans le principe, il a accompli ce que Dieu demande aux femmes, mais à une échelle infiniment plus grande. Pierre donne Christ pour servir d'exemple aux femmes qui souffrent sous l'autorité de mari incroyant. 1 Pierre 2, verset 23 nous dit « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » 1 Pierre 3, verset 1 poursuit « Femme, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » Christ a pu se soumettre à des autorités humaines méchantes parce qu'il s'en remettait à Dieu dont l'autorité surpasse ces méchants êtres humains. Les épouses sont vivement encouragées à se soumettre à de mauvais maris et être patientes avec eux, en reconnaissant l'autorité de Christ qui surpasse et dépasse celle de leur mari. Elles s'en remettent à Christ qui est au-dessus du mari, de la même façon que Christ s'est soumis aux Juifs et aux Romains, parce qu'il faisait confiance au Dieu qui est au-dessus et au-delà des Juifs et des Romains. Enfin, plus loin en Philippiens 2, nous lisons que c'est parce que Christ s'est soumis à l'humble rôle de serviteur que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si nous nous soumettons volontairement aux limitations inhérentes à la féminité biblique, alors nous entrerons joyeusement dans la gloire exaltante que Dieu réserve à ses filles obéissantes dans cette vie et la suivante. Récemment, mon mari a effectué des recherches au séminaire où nous avons été tous les deux diplômés. En passant à la bibliothèque, il a jeté un coup d'œil sur nos mémoires de master, par curiosité. Il m'a rapporté la chose suivante. « Chérie, ton mémoire a tant de succès qu'ils en ont tiré 3 exemplaires tellement les gens le consultent. » J'ai répondu en riant « Oh, ça doit être à cause du titre accrocheur. » Mon mémoire s'intitule « Les limitations bibliques de la femme ». Je me demande s'il existe quelque chose de moins attrayant encore que ça. Nous ne voulons pas entendre parler de limitations, même si nous croyons qu'il y en a. Il n'est pas politiquement correct d'en parler ouvertement. Mon mémoire développe l'idée que Dieu a posé certaines limitations à la femme. Nous devrions être soumises à l'autorité masculine à la maison et dans l'église. Nous devrions être enracinées et engagées dans le domaine privé. Il est vrai que nous avons plus de responsabilités envers le foyer et les soins domestiques que les hommes. Nous devrions être modestes dans notre comportement et notre habillement. Et il y a des moments où les femmes doivent se taire. Cependant, la Bible promet et démontre aussi que lorsque les femmes acceptent ces limitations, elles ont pour résultat d'être exaltées. Elles obtiennent plus de puissance avec Dieu et avec les hommes. Elles sont précieuses aux yeux de Dieu. Leurs vies sont riches d'émotions et d'adoration. Elles portent du fruit et sont louées dans le domaine public pour des vies souvent vécues en privé. Cette progression ne s'applique pas seulement à la féminité. Le fait que chacun a des limites est une chose fondamentale au christianisme. Si nous les acceptons, nous sommes exaltés. Si nous nous humilions, nous sommes élevés. Comme Philippiens 2 le proclame, Christ en est l'exemple ultime. Après nous avoir donné Jésus comme notre exemple ultime de soumission en 1 Pierre 2, versets 21 à 25, Pierre nous présente un exemple spécifique d'une femme comme modèle d'aide complémentaire rachetée dans le chapitre suivant. Quelle grâce Dieu nous fait de non seulement nous donner son Fils parfait comme notre exemple humain, mais en plus de nous donner l'exemple d'une femme déchue comme nous, pour représenter spécifiquement la féminité rachetée. Cet exemple est Sarah, l'épouse d'Abraham. Revoyons ce passage bien connu. 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Heureusement, nous avons plus d'informations sur le mariage de Sarah et d'Abraham que sur tout autre mariage dans les Écritures. Considérons 5 points importants que nous pouvons voir dans cet exemple fondamental de mariage riche d'enseignement. Sarah et Abraham étaient de riches citadins de Ur, une ville très chic du monde antique. L'archéologie nous a appris qu'ils avaient de l'eau courante dans les maisons et un système de climatisation. À l'âge de 75 ans, Abraham fait une reconversion radicale dans sa carrière en passant du statut de riche citadin à celui de pèlerin nomade et agriculteur. Si vous aviez été Sarah, quelle aurait été votre réaction? Voilà Abraham qui arrive en disant « Dieu m'a dit que nous devons partir sur nos chameaux et errer en Canaan pour un temps, peut-être pendant les 50 prochaines années. » Sarah répond comme une femme qui est prête à suivre. Abraham la dirigeait, c'est sûr, mais elle avait sa propre foi, comme nous le dit Hébreux 11, verset 11. C'est ce que Dieu attend de nous. La femme suit son mari, alors que Dieu les dirige tous deux. Il dirige l'homme, mais la femme est également en train de suivre Dieu quand elle suit la direction de Dieu à travers son mari. Sarah a passé des années et des années à errer dans des tentes, en attendant une postérité et en restant avec son mari. En suivant son mari, elle a manifesté sa foi en Dieu. Il n'y a pas très longtemps, j'étais chez un ami qui organisait un week-end de retraite pour 5 hommes dans le ministère, hommes que leurs épouses avaient quittés. Leurs femmes s'étaient tout simplement lassées. Elles ne voulaient pas rester avec leur mari. Leurs forces étaient usées, sans aucun doute à cause des attaques de Satan et aussi, je ne peux pas m'empêcher de le penser, à cause de notre culture mondaine féministe. Pour la plupart des épouses, la loyauté envers leur mari n'est plus la mission principale de leur vie. Cela devrait l'être. Heureusement que cela l'était pour Sarah. Lorsqu'une épouse quitte son mari, c'est un péché et un drame personnel. Mais si la femme d'Abraham l'avait quitté, cela aurait été une catastrophe planétaire. Les Écritures disent que Sarah a obéi à Abraham. Quand Dieu est venu leur rendre visite personnellement, Abraham a couru jusqu'à la tente en disant « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Que se serait-il passé si Sarah avait été le genre de femme à dire « Oh, fais-le toi-même » Mais non, au moment crucial où Dieu avait fait un saut chez eux, Abraham pouvait aller la voir en toute confiance et compter sur elle. Nos maris peuvent-ils compter sur une promptitude similaire de notre part? Pierre dit que Sarah obéissait à Abraham en l'appelant « Seigneur ». Le seul passage de Genèse où Sarah appelle Abraham « Seigneur » est en Genèse 18, verset 12. Là est écrit « Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Elle répond avec incrédulité à l'annonce de Dieu qu'elle va avoir un enfant l'année suivante. Cependant, 1 Pierre 3 verset 6 ne fait pas référence à l'incrédulité de Sarah envers Dieu, mais plutôt à son respect envers son mari. Que pouvons-nous apprendre du contexte de Sarah qui appelle Abraham son Seigneur, qui peut nous aider à obéir à l'ordre de Pierre envers nous en tant qu'aide complémentaire? Tout d'abord, Sarah appelle Abraham Seigneur dans une référence privée et détendue. Comme nous le savons tous, la façon dont on s'adresse aux gens derrière leur dos ou en privé reflète ce que nous pensons d'eux réellement. Il est donc important de remarquer que Pierre ne fait pas référence à un contexte public ou formel où une épouse appelle son mari « Seigneur ». Si c'était le cas, elle aurait pu le faire à cause de la pression sociale ou par crainte de représailles. Non, Sarah appelle Abraham « Seigneur » dans ses pensées intimes. De plus, elle l'appelait « Seigneur » par habitude. Genèse 18, verset 12 ne représente pas seulement la pensée intérieure de Sarah, mais son raccourci mental. C'est exactement le contexte dans lequel tant de femmes utilisent des termes avilissants ou dégradants lorsqu'elles pensent à leur mari ou aux hommes en général. Enfin, la pensée de Sarah fait référence à toute une vie vécue aux côtés d'Abraham. Sarah et Abraham avaient été jeunes ensemble, ils avaient vécu des années de stérilité, et là ils étaient tous deux âgés. La pensée de Sarah pourrait être paraphrasée ainsi. Abraham et moi ne pouvions pas avoir d'enfants quand nous étions jeunes. Maintenant que nous sommes vieux, pouvons-nous éprouver le plaisir de créer et de recevoir un bébé? La vie de Sarah avec Abraham avait été longue et ils avaient été proches toutes ces années. En quelques mots, Sarah réunit à la fois le respect pour l'autorité et la vie en commun, que la Bible enseigne à de nombreuses reprises, comme étant les éléments clés d'un mariage selon Dieu. Le respect pour la position et le rôle du mari devrait constituer l'attitude intérieure habituelle de l'épouse pieuse. Selon le plan de Dieu, ce respect n'est pas froid ou distant, mais il est mêlé à l'intimité de ceux qui marchent côte à côte, sachant qu'ils sont tous deux héritiers de la grâce de la vie. Certains chrétiens ont pris 1 Pierre 3 verset 3 comme un avertissement contre toute forme de beauté féminine. Le but de ce passage est plus clair dans une des traductions de la Bible qui le rend en ces mots. Que votre beauté ne soit pas simplement extérieure, dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais qu'elle soit dans la personne cachée du cœur. Si Pierre essayait de dire que la laideur en elle-même ajoute à la piété, ou que l'absence de tout ornement est une vertu, il n'aurait jamais choisi Sarah comme exemple par excellence. Elle était l'une des beautés les plus riches et les plus reconnues de l'Ancien Testament. La question est de savoir en quoi vous trouverez votre valeur et identité personnelle. Est-ce en la femme intérieure, ou bien est-ce en la femme extérieure que vous êtes? D'un bout à l'autre de la Bible, Dieu insiste sur le fait que l'intérieur est primordial et l'extérieur secondaire. Sarah était magnifique extérieurement, mais c'est sa vie spirituelle intérieure qui fait d'elle un modèle pour nous toutes, que nous soyons ordinaires ou jolies. Cependant, à notre époque de négligence, de vêtements unisexes et d'indécence, je suis poussée à vous encourager à vous habiller avec modestie et soin, de façon appropriée à votre âge, votre sexe, votre activité et votre position. De cette manière, vous manifesterez du respect envers Dieu, les autres et vous-même. Tout comme Sarah contredit l'idée que la laideur va de pair avec la piété, elle va aussi à l'encontre de la soumission servile et silencieuse. Examinons le cas d'Agar et d'Ismaël. Sarah avait conseillé à Abraham d'avoir des relations avec Agar. C'est ce qu'il a fait et ils ont eu un fils. Des années plus tard, après la naissance d'Isaac, Sarah réalise qu'Isaac et Ismaël ne peuvent pas grandir ensemble. Elle va voir Abraham et lui dit « Renvoie cette femme et son fils ». Ce n'est pas vraiment une demande, c'est plutôt un impératif et Dieu la soutient. Nous avons un exemple similaire, mais pas aussi fort, quand Anne informe Elkana, son mari, qu'elle n'ira pas au tabernacle pour la fête. Celui-ci s'inquiète qu'elle ne tienne pas sa promesse de donner Samuel à l'Éternel. Anne dit qu'après 3 ans, elle l'amènera et accomplira son vœu, ce qu'elle fait. Encore un autre exemple que nous avons vu dans la leçon 4, celui de la Tsunamite qui prend l'initiative de l'adjonction d'une chambre pour le prophète Élisée. Ainsi, nous avons ces exemples de mariage équilibré et biblique où les femmes disent à leur mari de quelle manière certaines choses doivent se passer. Attention, il ne s'agit pas de leur donner des ordres ou de rejeter le rôle d'aide. Avoir un cerveau et une volonté fait partie de l'accomplissement de notre rôle, non seulement dans l'aspect de la gestionnaire pour Dieu, mais aussi dans celui de l'aide complémentaire. La réciprocité et l'interaction active font partie d'une relation de conjoint saine. Mais notez bien, cette réciprocité s'exerce pour apporter un plus au partenariat du mariage, au sein du cadre d'autorité où le mari dirige. Ce n'est pas une version de la réciprocité prônée par les féministes qui vise à effacer l'autorité de l'homme. Il est significatif que ces trois cas concernent le domaine domestique. Sarah ne va pas voir Abraham pour lui expliquer comment gérer sa relation avec Lot ou comment faire la guerre aux cinq rois. Ses épouses disent ce qu'elles pensent, de la façon la plus énergique qui soit, sur des questions d'ordre domestique où leur savoir est le plus complet. La soumission biblique n'est pas synonyme de servilité. Elle n'est pas une attitude débile, écrasée ou mécanique. Bien au contraire, c'est une attitude générale de femme prête à suivre de manière active et interactive, provenant d'une loyauté qui n'est pas simulée et d'un respect qui est habituel. Nous avons étudié la Trinité pour en tirer des principes relationnels qui nous aideront à être des aides rachetées. Nous avons pris quelques-unes des femmes vertueuses des temps anciens comme exemple de piété. Terminons en regardant les grands archétypes féminins de la Bible. Christ, bien qu'il soit le parfait exemple de soumission, n'est pas féminin. Le Saint-Esprit n'est pas féminin. Quels sont les grands exemples féminins? Qui ou qu'est-ce qui est à la féminité des femmes? Ce que le Père et le Fils sont à la masculinité des hommes? Dieu n'a rien fait de majeur dans l'histoire de l'humanité sans ses aides féminines. Voilà une affirmation plutôt forte. Je vais le redire. Dieu n'a rien fait de majeur dans l'histoire de l'humanité sans ses aides féminines. Qui sont les aides féminines de Dieu à travers lesquelles il a choisi de compléter ses œuvres? Les voici, la sagesse, Israël et l'Église. Examinons chacune d'entre elles. En Proverbe 8, nous voyons qu'avant même que Dieu ait créé le sable de la terre et le temps, il a créé un ensemble de principes qu'il a utilisés pour faire sa création. Comme un sage architecte, il a conçu un plan pour son univers avant même de l'ériger. Le plan vient de l'architecte, mais l'architecte n'est pas le plan. De la même façon, la sagesse du livre des Proverbes vient de Dieu, mais elle n'est pas Dieu. Salomon nous dit qu'on peut mieux comprendre de quoi il s'agit si on la considère comme un instrument féminin qui aide Dieu et qui enseigne et conseille l'espèce humaine. En Proverbes 8, versets 30 et 31, la sagesse, personnifiée en femme, parle. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Avant de créer l'univers, Dieu a développé des principes de sagesse qu'il a utilisés pour créer et soutenir son univers. Cette dame sagesse travaille aux côtés de Dieu, en fait ses délices et se réjouit de ses œuvres, de son chef-d'œuvre en particulier. La sagesse est une aide classique. Elle est le modèle de ce que nous devrions faire envers ceux que nous aidons. Nous devrions travailler aux côtés de ceux qui nous dirigent et nous réjouir en eux, de leur travail et de ce qu'ils accomplissent. Avant de mettre en place son royaume sur terre, Dieu s'est créé une aide pour lui-même, la nation d'Israël. Dieu a épousé la nation au mont Sinaï en contractant une alliance avec elle. Ils ont fait quatre choses importantes ensemble. Ils ont bâti sa maison, le tabernacle où il a vécu sur terre, dans le Saint des Saints. Il a régné sur terre directement comme roi avec Israël, sa nation reine, de 1446 à 586 avant Jésus-Christ. Il a écrit la Bible avec l'aide des prophètes hébreux. Il a envoyé son Fils dans le monde par l'intermédiaire du peuple juif. Dans toutes ses activités majeures, la nation d'Israël a aidé Dieu comme une épouse aiderait son époux. il y a une vieille expression que j'aime qui dit « sont les fruits de leur union ». Ces quatre choses sont les fruits de l'union de Dieu et d'Israël. Israël a littéralement tenu la maison de Dieu. Plus de la moitié du Pentateuque est remplie d'instructions sur la manière de construire le tabernacle, comment ordonnancer les fêtes, comment faire la vaisselle, comment confectionner les vêtements du prêtre. Parfois, lorsque je suis débordée par tout le travail que j'ai à faire, pendant les fêtes, je me souviens d'Israël. Cela m'encourage parce que je me souviens de tout le temps que les Juifs ont passé à prendre soin de la maison de Dieu et à préparer les fêtes. C'est un service classique pour Dieu, prendre soin de notre habitation et en présider les célébrations. La Bible est un des fruits de l'union entre Dieu et Israël. Elle porte l'image à la fois de son père et de sa mère. Le caractère saint et inhérent de Dieu transparaît, mais le côté juif ressort presque à chaque chapitre. Dieu a inspiré les prophètes. En conséquence, ce qu'ils ont écrit est la vérité même de Dieu. Néanmoins, leurs personnalités transparaissent. Samuel est différent d'Ésaïe et Ésaïe diffère également de Moïse. On peut voir leur personnalité individuelle et leur culture juive. Mais Dieu a éliminé le péché pour que nous ayons une Bible inhérente. La même chose est vraie en ce qui concerne Jésus. Jésus est le Fils parfait de Dieu. Tout comme la Bible est la parfaite expression de la parole de Dieu, par le biais d'instruments humains, Jésus est l'image parfaite de Dieu, venu vers nous sous forme humaine. L'humanité de Jésus transparaît sans aucune trace de nature pécheresse. De ce que nous savons, il ressemblait probablement à sa mère ou à ceux de sa famille. Ethniquement, il était et est juif. C'est un concept passionnant. Dieu a épousé Israël. Ensemble, ils ont porté du fruit. Ce fruit leur ressemble à tous les deux. À notre époque, Dieu est en train de créer une nouvelle aide féminine, l'Église. Alors même qu'il construit son Église, nous, les membres de l'Église, travaillons avec lui à l'évangélisation du monde. Paul dit dans l'Épître à Timothée que l'Église est la colonne de vérité dans le monde. L'Église aide Dieu à maintenir son règne sur terre en ce moment même. Et finalement, elle se prépare à régner sur ce monde et aidera Christ à régner sur le monde et sur l'univers d'une manière plus complète dans les temps à venir. Pour toutes ces choses, créer ou soutenir l'univers avec Dame Sagesse, régner sur la terre avec Israël, écrire la Bible, mettre au monde son Fils Jésus-Christ, évangéliser le monde ou préparer son royaume, Dieu les accomplit avec et au moyen de ses aides féminines. D'un côté, ces exemples d'archétypes sont grandioses et majestueux. Ils donnent une grande dignité à la féminité. Et d'un autre côté, comme ils sont spécifiques et pratiques, ils donnent aux femmes des exemples concrets pour la vie quotidienne. Nous n'avons pas besoin de féminiser Dieu pour trouver des modèles ultimes qui nous inspirent pour notre vie de femme. Ces exemples nous ont déjà été fournis au niveau panoramique de l'histoire, avec les aides de Dieu lui-même. Dans l'aspect de la gestionnaire pour Dieu, j'ai souligné le fait que toutes les femmes sont maîtresses de leur domaine, peu importe leur personnalité. Ici, je veux souligner le fait que toutes les femmes sont créées pour être des aides complémentaires, peu importe leur état civil. J'ai une très bonne amie qui, en tant que célibataire, a passé 30 ans de sa vie à s'occuper de ses parents vieillissants, puis, après leur mort, de ses tantes âgées. Elle ne s'est jamais mariée, c'est une femme mûre et pieuse, une des meilleures aides complémentaires que je connaisse. Elle a aidé et complété de nombreuses personnes, ses parents, ses patrons, ses pasteurs, ses supérieurs militaires, ses amis, sa famille et par-dessus tout, le Seigneur. Que vous soyez célibataire, marié, veuve ou divorcé, c'est ma prière que vous grandissiez dans votre rôle d'aide complémentaire rachetée, en vous soumettant à Christ et en étant fortifié pour servir Dieu dans les rôles et les structures d'autorité qu'il a établies. Aider les autres est une chose fondamentale à votre nature de femme, telle que Dieu l'a créée, et essentielle dans votre service pour Dieu.